Bonjour et merci d'être avec nous sur l'antenne d'RCFM pour un nouveau numéro de Sobre à Logo. Aujourd'hui, nous allons parler patrimoine avec la préservation. Enfin, on va essayer d'en savoir un petit peu plus autour de la fondation du patrimoine. On a le plaisir de recevoir Thierry Rovert, qui est chargé de mission pour la délégation corse de la fondation du patrimoine, que l'on salue. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on va, dans un deuxième temps, évoquer votre boulot, cette fondation du patrimoine, les enjeux, comment ça marche, ça concerne qui, ça peut concerner une commune, des particuliers, enfin il y a un tas de questions, on est certain que vous allez nous donner les réponses. En revanche, on essaye toujours dans cette émission de partir un petit peu du début, de comprendre si cette passion pour les pierres, pour l'histoire, c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps ou pas. Alors l'enfance, elle s'est passée où, Thierry? Moi je le sais, hein, parce qu'on se connaît un petit peu.
Oui, on s'est croisés pendant longtemps et... jusque sur les bancs du lycée. L'enfance, ça s'est passé à Bastia, hein, puisque je fais partie de ces gamins qui n'avaient pas de village. Donc, mon enfance, mes vacances, ma vie, c'est essentiellement Bastia jusqu'à l'obtention du bac, où là, je suis parti sur le continent.
On va y revenir un petit peu. Alors justement, ce Bastia d'il y a quelques années, quelques décennies, mais les premiers souvenirs qui vous viennent à l'esprit, et alors on peut le dire aussi, dans votre famille, l'histoire était très présente. Votre papa est professeur d'histoire, notamment.
Notamment, oui, alors effectivement, l'histoire et la culture en général ont été très présents. Alors, je ne peux pas dire que j'étais un enfant très studieux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Ah oui, c'est un petit peu l'image que vous donnez, en tout cas, que vous dégagez.
Oui, parce que j'ai vieilli.
pas du tout.
J'ai eu une enfance, en fait, très, très, j'étais essentiellement à l'extérieur. J'avais des parents très occupés. Je passais aussi beaucoup de temps chez mes grands-parents, ce qui me laissait une liberté qu'aujourd'hui on retrouve peut-être moins facilement. Et donc j'étais essentiellement dehors. Alors évidemment, je veillais à faire le devoir au moins à moitié, et je m'assurais que la seconde moitié était. J'essayais de faire au moins semblant et bien le faire, que ce soit fait, voilà. Et voilà, donc j'ai une enfance très très heureuse. Une heureuse et dehors.
Dans un quartier plutôt vers la gare, hein, si je dis pas de bêtises, ou pas forcément.
Alors,
moi, c'est un peu l'idée que j'ai, mais je peux me tromper.
Oui, alors l'idée n'est pas fausse, puisque l'appartement familial était avenue Maréchal Sébastiani. Donc, j'avais un champ opérationnel qui s'étalait, en fait, entre les deux résidences aussi de mes grands-parents. D'un côté, le sommet de l'avenue Émile Sarr.
D'accord.
Voilà, ouais. Au-delà, on était déjà dans les confins auxquels il fallait pas s'aventurer. Et du côté paternel, on montait jusqu'au Fort La Croix. Voilà. Donc, j'étais avec les copains à vélo.
Géographiquement, c'était là.
C'était là. Alors, évidemment, avec la place Saint-Nicolas comme centre de gravité, hein, puisque proche de tout.
Pour tous les Bastiais du centre, la place est incontournable. Plutôt une jeunesse sportive, plutôt une jeunesse, je sais pas, quelles étaient vos passions, vos centres d'intérêt, comme on dit?
Alors, sportive, non, j'étais nul en sport en général. Alors, j'en faisais avec les copains parce que finalement, on était dehors, on jouait au ballon.
Bien sûr.
On était tout le temps sur un vélo ou sur un skateboard, voilà. Mais sinon, non, j'étais pas. J'ai vaguement essayé de faire du foot, ça s'est vite arrêté, je crois même en poussin. On a très vite détecté mon incapacité à.
C'est allé vite alors,
ouais. Ouais, c'est allé vite, à progresser dans le domaine. Voilà. Donc, une enfance active. Pas dans un cadre vraiment formel de club de sport, de choses comme ça. Alors moi, j'étais souvent dehors avec les copains et on s'amusait de manière très saine d'ailleurs, hein, et on faisait pas de bêtises.
Vous disiez que les devoirs, c'était pas forcément ce qui vous passionnait le plus. C'était quoi les devoirs? C'était l'encadrement? C'était l'école en général? C'était le système éducatif? C'était, je sais pas. Non, je dis pas que vous étiez réfractaire, j'en sais strictement
pas du
rien.
Tout. Voilà. Alors pas du tout. Non, ça n'a jamais fait partie de ma personnalité d'être réfractaire. Non, c'était le système éducatif était même bien fait. Non, c'était juste des centres d'intérêt qui étaient autres que de m'asseoir devant un bouquin.
Vous rêviez de quoi? Vous aviez, je sais pas, ou est-ce que vous aviez des héros? Est-ce que vous aviez des envies pour plus tard ou pas du tout?
Alors, très sincèrement, pas que je me souvienne.
D'accord, oui. Pas une volonté d'être un jour, je ne sais pas moi, astronaute, journaliste, pompier, professeur.
Professeur, certainement pas. Ça m'est venu après, plus tard en faisant des études, parce que ça se resserrait un peu comme un entonnoir. Mais gamin, non. Très franchement, alors évidemment, comme tous les enfants, j'ai sans doute rêvé d'être cow-boy, cascadeur, astronaute et je ne sais quoi.
D'accord.
Mais
pas réellement de choses bien précises.
Pas réellement de vocation ancrée.
D'accord. Alors l'école, j'imagine Bastia, toujours Bastia, le lycée aussi,
c'était... L'école du centre, maternelle, primaire, ensuite collège Giro, puis on a fini au Fang.
On a fini au Fang. Et les études après, donc il faut, le bac en poche, décider de quelle filière vous allez emprunter.
C'est ça, et c'est là que j'annonce, je vais partir faire de l'histoire.
Voilà. À Nice, je crois.
À Nice, oui. C'est bien ça, voilà.
Alors le papa a dû être content, non ?
Pas du tout.
Et pourquoi ?
Alors, pas du tout.
Professeur d'histoire, votre
professeur
père,
d'histoire, ouais. Tout à fait. Le papa n'était pas content du tout. Il me disait, non, ne fais pas ça. Alors, en fait, il sentait bien que je m'orientais vers des études littéraires. Et lui, souci de papa, se disait, mais tu auras plus d'opportunités si tu bosses tes maths.
Ah oui, c'est cette génération, il fallait faire des maths, voilà. La première S, etc. Et
voilà,
etc.,
ouais. Tu auras plus d'opportunités professionnelles si tu fais des maths. Et j'étais à peu près aussi bon en maths qu'en sport.
Oui, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a ?
Et donc, je me suis ensuite orienté, je dirais, mais aussi par goût, hein, parce que, alors,
bien
enfin,
sûr,
par goût,
bien sûr.
Aussi parce que, ayant baigné dedans, mine de rien, ça m'était facile. Faut pas se leurrer, hein.
Bien
quand,
sûr.
Quand on tombait dans un univers où l'histoire est là tous les jours, même si on m'assommait pas avec ça, hein, j'ai pas un père qui m'a sursollicité en la matière, mais voilà, je baignais dedans et donc. C'est presque naturellement, en fait, que j'y suis allé. À l'époque, il n'y avait pas histoire à Corté, qu'on est parti à Nice directement.
Et dans l'histoire, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait des périodes plus que d'autres qui suscitaient votre intérêt ou c'était vraiment l'histoire au sens large ?
Alors, la période, alors, du temps où, quand j'étais plus jeune, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'histoire contemporaine.
D'accord, oui.
Voilà, on dirait l'histoire après la Révolution française. En vieillissant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des tas de choses qu'on ne nous enseignait pas à l'université, notamment tout ce qui est, je dirais, la période préhistorique. C'est quelque chose, à moins de vouloir vraiment se spécialiser là-dedans, dans les études d'archéologie,
voilà,
etc.
Voilà, c'est plutôt quasiment de l'archéologie. Voilà.
Mais sinon, malheureusement, j'ai découvert en vieillissant avec de la maturité, que c'était tout un pan, je dirais, culturel qu'on n'avait jamais abordé. Et c'est bien dommage. Parce que c'est quand même quelque chose qui est fondamental dans ce que nous sommes collectivement.
Que vous retrouvez quelque part aussi, alors peut-être pas dans les bâtiments que vous aidez à restaurer ou à sauver, mais il y a cette idée de choses qui viennent de très loin en fait. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis ce sont des strates. Hein. Bien souvent, on s'intéresse à une église baroque, mais en dessous, il y avait l'église romane. Et puis en dessous, il y a encore du paléo-chrétien. Et puis, etc., etc., voilà. Et donc ça, malheureusement, c'est un grand regret parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez. Et je vois, j'ai aussi un adolescent à la maison hein, qui est au lycée maintenant. Et c'est vrai que cette période-là, qui est pourtant fondatrice hein, pour notre espèce,
oui,
pour
ça
notre
va très, culture, ça va très vite. C'est vrai que ça va.
On passe dessus comme si finalement elle n'avait pas duré quelques millions d'années.
Surtout à l'échelle de l'humanité,
voilà.
C'est pas la plus courte, effectivement. Alors, les études d'histoire qui vous mènent jusqu'à une licence maîtrise, c'est
alors,
ça
ouais. Qui m'amène jusqu'à une maîtrise, et puis après ça, il y a l'entonnoir des concours.
Donc, vous souhaitiez quoi, entrer alors, dans la fonction publique
Alors, je souhaitais pas vraiment. Pas vraiment, c'est-à-dire que. C'est souvent le cas dans les études littéraires, hein. On se lance là-dedans en se disant, bon, bah, tiens, parce que ça m'ouvrir un tas d'opportunités, de carrières possibles, de ceci, cela.
De concours possibles, d'administration et autres.
Ouais. Bon, et puis en fait, à l'arrivée, vous apercevez que, à part les concours administratifs, il n'y a pas grand-chose qui s'offre à vous. Et, je dirais, la voie royale, quand on était en histoire à l'époque, c'était les concours de l'enseignement. Alors, là aussi, je n'étais pas très studieux. Ce qui fait que les concours d'enseignement, à l'époque, nous étions 15 000 candidats pour quelque chose comme 750 postes au niveau
d'accord,
national.
Oui, c'est énorme. C'est très peu, je veux dire.
Voilà. Donc, à l'écrit, ça se passait relativement bien. Arrivé à l'oral, quand vous passez trois épreuves avec trois spécialistes, chaque épreuve durant 40 minutes, il se rendait bien compte que l'étudiant en face avait pas mal fait la fête.
Là, vous le confessez.
Là, on ne faisait plus illusion.
D'accord. Voilà. Et c'est un regret aujourd'hui de ne pas avoir réussi, entre guillemets, à aller au bout de la filière. En tout cas, ça a été une bonne base, alors, certainement, pour vos missions futures.
Hein. Alors, je vais me confesser, c'est vraiment une confession. Les concours ont été l'occasion pour moi de découvrir les vertus du travail. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à cet Everest, hein, pour un étudiant. Parce que l'étude d'histoire, c'était facile. Hein, fallait pas, c'était pas très compliqué. Il suffisait de s'atteler avant les partiels, 15 jours, 3 semaines, s'enfermer dans la chambre et puis bosser. Voilà, et puis on y arrivait. Pour les rater, il fallait vraiment pousser le bouchon. Et puis là, vous vous rendez compte que bah, vous êtes face à un Everest, que c'est énorme, en quantité, choses à traiter, le niveau qui est exigé. Voilà. Et donc, les concours m'ont donné le goût du travail. C'est vraiment là, en les préparant, que j'ai pris goût à travailler. Avant ça...
Bien sûr.
Avant ça, j'étais un gamin comme un autre, hein, sans... Voilà. Et peut-être pas très mûr non plus. Voilà. Donc, moi, les concours, voilà, ils m'ont rendu ce grand service. Maintenant, je fais partie de la catégorie de ce qu'on appelle des bosseurs. Je travaille beaucoup, par goût. Mais ça, c'est.
Mais beaucoup se révèlent plus tard. Question de maturité, vous l'avez abordé, c'est évident. Après, chaque enfant a un rythme qui lui est bien sûr particulier. Et certains vont le découvrir très tôt. Puis
c'est
d'autres.
Moi, j'ai cessé de rêver, en fait.
Voilà.
J'étais en plein air. Voilà. J'ai cessé de rêver à ce moment-là, quand je me suis retrouvé face au concours. Alors, j'ai échoué trois fois à l'oral. Ça aussi, c'est formateur. Bah, parce que d'un coup, vous vous rendez compte que bah, vous êtes finalement, vous croyez peut-être malin, vous avez été astucieux durant toutes vos études, mais ceux qui ont bossé, bah, forcément, eux, avaient plus de chance. Après, sur la carrière de l'enseignement elle-même, non, je n'ai strictement
aucun regret. Parce qu'après, pour aller pas vite, mais suite à cette maîtrise et à ces concours, on va dire, vous avez été recalé, vous avez pris une autre voie qui étonnamment, n'était pas très proche de l'histoire.
On continue dans la confession. Ouais. J'avais pris un coup moral avec cette histoire d'oro raté. Alors, une fois, ça va, mais bon, après, ça use. Et puis, c'est un travail énorme, un investissement énorme. Et donc, j'ai dit à mes parents, bon, je ne me sens pas de repartir, je me suis inscrit à l'IRA.
Oui, qui est quand même déjà un institut.
À l'IRA à Bastia, je me suis assis là. Alors, il y avait deux cours qui m'intéressaient. Il y avait le cours de Michel Castellane et il y avait des cours de droit constitutionnel. Tout le reste, je m'ennuyais, mais alors à mourir.
D'accord.
Voilà. Et puis, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas passer une vie à faire un travail dans lequel je vais m'intéresser qu'à des choses qui m'ennuient.
Oui.
Et donc j'ai décidé d'apprendre à travailler. Et pour apprendre à travailler, ben, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un cabinet d'assurance qui était à la Rocade, enfin qui est toujours d'ailleurs à la Rocade, chez M. Grisanti, et qui m'a donné ma chance. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la vie professionnelle. Et j'ai commencé par vendre des assurances, ce qui a été extrêmement formateur.
Des assurances, vous êtes passé à l'audiovisuel?
Enfin, oui, alors
la création d'une société.
Oui, quelques années plus tard.
On va vite, hein, parce qu'on va,
bien sûr,
qu'on puisse en parler après de la fondation.
Quelques années plus tard, j'ai été débauché par quelqu'un qui m'a dit voilà, moi, c'était un pro de l'audiovisuel, la production exécutive, qui m'a dit moi, je sais qu'il faut faire un studio en Corse, mais je sais pas faire. Enfin, il savait ce qu'était un studio, évidemment, c'était
bien
son
sûr.
Métier, voilà. Par contre, tout le cheminement, que ce soit les financements, etc., d'un point de vue. On va dire administratif, légal, tout ça. En fait, cette personne m'a débauché pour que je fasse
ce travail-là.
Et ça a été quelques années aussi d'un travail intense, parce que c'est un milieu très particulier, mais aussi avec de très très beaux souvenirs. Et on a produit dans ce studio, Viastel a été lancé en 2006.
Oui,
ouais. Et nous, on lançait le studio en même temps. Les premières émissions de Viastel, qui étaient Latitude 42,
l'époque, avec Michel Donignan.
C'est ça. On était réalisé dans le studio de Bigouille.
Ah oui, mais je m'en souviens très bien. Voilà. D'accord, oui, effectivement.
C'est là que je sévissais.
Et alors, on va écouter un premier morceau musical, mais vous y arrivez quand à la Fondation et dans quelles circonstances?
Alors, je rentre à la Fondation le 7 ou 8 juillet 2008.
D'accord, donc ça fait déjà un petit moment. Oui.
Ça va faire 16 ans, oui. Ça va faire 16 ans.
Alors, si vous voulez savoir ce qu'est la Fondation du patrimoine, vous en avez peut-être sûrement une idée, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
I'm at my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. lights at night. Dirty old town, dirty old town. The smoky wind, dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch train. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Deuxième partie de ce Sobralogue consacré à Thierry Rovert, chargé de mission pour la délégation corse de la Fondation du Patrimoine. Je ne me suis pas trompé dans l'intitulé, l'appellation.
C'était parfait.
C'est parfait. Bon, je n'ai fait que relire ce que vous m'aviez envoyé. Super. Donc, vous rentrez en 2008 à cette fondation. Alors, en quelques mots, la Fondation du Patrimoine, qu'est-ce à quoi ? Allez.
Alors, la Fondation du Patrimoine, c'est un organisme de droit privé avec une mission. Alors, un guise de droit privé à but non lucratif.
Non lucratif,
hein,
ouais.
Il faut bien comprendre que le patrimoine, ce n'est pas un business, c'est une mission qui nous a été confiée. Donc, à but non lucratif et reconnu d'intérêt public.
Alors, c'est voilà. Composé de permanents et de bénévoles.
Alors, la force de frappe de la Fondation du Patrimoine repose essentiellement au niveau national sur des bénévoles. Il y a quelque chose, on est près du millier.
Oui, au niveau des chiffres, c'est énorme. Il y a 1000 bénévoles, 3000 projets qui ont été déjà réalisés.
On est quasiment à 1000 bénévoles. On devrait y arriver d'ici fin 2024.
Je vous demanderai après ce qu'est vraiment un bénévole, hein, ce qui est considéré comme un bénévole, en fait.
Et 10 fois moins de salariés. En fait, ce sont les bénévoles qui maillent vraiment le territoire.
Alors, justement, on va y venir, mais juste pour être raccord avec ce que nous disions dans la première partie, vous y rentrez donc en 2008. Pourquoi et comment
une opportunité.
Tout simplement.
Ouais. Tout à fait. Il y avait, alors, je connaissais la fondation parce qu'elle a occupé à un moment donné des bureaux qui étaient proches des miens. Puis un jour, je rencontre son délégué régional, M. Lhôte, qui me dit j'ai un poste j'ai un salarié qui s'en va. Puis voilà, ça m'a trotté dans la tête, j'ai candidaté, j'ai passé d'entretien à Paris, et c'est comme ça que je me suis retrouvé.
Tout simplement.
Voilà, retour à mes premiers amours, en fait.
Ah bah justement, dans le fonctionnement des bénévoles et des salariés, on va dire. Alors, la fondation, elle existe sur tout l'ensemble du territoire. Toujours dans la présentation, juste pour expliquer peut-être à nos amis auditeurs, quel est à ce jour le projet qui a été peut-être le plus médiatique ou le plus, celui dont on a parlé le plus. On verra avec un exemple récent dans quelques instants pour voir et comprendre comment ça marche réellement. Mais il y a l'histoire de Stéphane Bern aussi avec la Fédération française des jeux. Voilà.
Avec le fameux loto du patrimoine.
Donc tout ça participer
à notre notoriété.
À la notoriété. Et peut-être à faire prendre conscience aux gens déjà qu'il y a un patrimoine près de chez eux et qu'il est une mission importante, c'est de le sauver. En gros, c'est ça.
Entièrement.
L'idée.
Alors, il faut savoir que la Fondation du patrimoine, à l'origine, est créée parce que, en fait, il y a un monsieur qui était passionné de patrimoine et qui s'est rendu compte que l'État faisait beaucoup de choses pour le patrimoine, mais essentiellement le patrimoine protégé, inscrit ou classé.
Les monuments historiques.
Les fameux
voilà.
monuments historiques. Et puis qu'il y avait tout un pan de ce petit patrimoine.
Qui n'est pas que matériel, je dirais. Hein. C'est peut-être
alors,
aussi...
nous, on ne s'occupe que de patrimoine matériel.
Oui, voilà. Mais j'ai lu dans les statuts que c'était aussi sur des paysages. Enfin, il y a plein de choses.
Voilà. Fait partie de nos missions également, on y reviendra après, le patrimoine naturel.
D'accord,
mais
ouais.
En revanche, notre mission n'est pas de nous impliquer, par exemple, tout ce qui peut concerner le chant ou la musique, enfin, etc. Là, on est dans le patrimoine immatériel.
Ouais.
Ça ne fait pas partie de notre mission.
Vous, c'était le patrimoine, entre guillemets, en dehors de ce qui est monument historique, ce que certains appellent le petit patrimoine, peut-être.
Oui,
qui est
un terme qui n'est
pas très joli.
Ouais. Alors, on l'utilise tous par commodité, mais c'est juste pour faire la différence entre le protégé et le non protégé.
Voilà. Alors, comment ça se passe concrètement? Le bénévole, sa mission, c'est lui qui alerte, c'est lui qui est sur le terrain?
Alors, le bénévole, c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui en règle générale, connaît les élus, connaît son territoire. Alors, il y a plusieurs échelles, hein. Vous avez des bénévoles de pays, ça peut se limiter à une micro-région, à une vallée, ou pourquoi pas même à un canton. Puis ensuite, vous avez des délégués, on va dire départementaux, etc. Donc le bénévole, c'est vraiment lui qui maille le territoire. C'est lui qui connaît les maires, c'est lui qui connaît y compris les monuments.
Voilà, je suis bénévole, près de chez moi il y a les traces de les ruines d'un baptistère.
Tu es bénévole en Castaniche.
Voilà, par exemple.
Voilà,
oui.
Et il te sera demandé, mon cher Jean-Charles, de veiller et de rapporter des projets, enfin du moins de détecter les projets sur lesquels nous pourrons apporter notre aide.
Donc à la base, c'est quelqu'un qui fait la démarche de venir vers vous. C'est pas vous qui allez coopter ou chercher ou alors oui peut-être en fonction du terrain ça peut arriver
alors,
aussi.
Ça dépend, ça marche dans les deux sens. Il y a des bénévoles qui viennent vers nous et puis d'autres parfois nous allons les solliciter. Des fois on détecte un profil quelqu'un qui nous intéresserait bien, qui nous dit oui, qui nous dit non. Alors ça peut être un bénévole vraiment de terrain ou parfois même un bénévole thématique. Sur la Corse aujourd'hui nous avons 12 bénévoles pour un salarié donc moi. Et il y a des bénévoles de terrain et des bénévoles thématiques.
Alors, comment sont retenus les projets ensuite, quels sont les moyens dont vous disposez qu'est-ce que vous pouvez proposer à des particuliers ou à des sociétés, à des entreprises le bénévolat, la réduction d'impôts peut-être aussi. Enfin, il y a pas mal de...
Alors voilà, après, faut pas tout mélanger. La Fondation du patrimoine, c'est une boîte à outils. Nous avons des outils pour les propriétaires privés,
d'accord,
ouais. Maisons de village, typiques de notre architecture. Hein, nous avons des outils, un outil principalement qui s'appelle le label et qui permet au propriétaire privé qui va refaire son habitation, ou ça peut être un four ou un moulin, hein, attention, qui va restaurer son patrimoine dans les règles de l'art. Nous avons des outils qui lui permettent de défiscaliser une partie du montant des travaux.
D'accord.
Voilà, ça, c'est à destination du propriétaire privé. Et ensuite, pour le propriétaire public, c'est l'essentiel de notre activité, à différence de mes collègues continentaux qui, souvent, ont plus de projets privés que de projets publics.
Public, ouais.
Nous, c'est l'inverse, pour des raisons un peu compliquées. Et donc, pour les projets publics, pareil, on a tout un éventail d'outils que nous déployons. Mais notre mission, pour le patrimoine public, c'est toujours d'aller chercher du mécénat, d'une manière ou d'une autre. Et la fameuse défiscalisation est en fait une manière, quelque part, pas de déclencher forcément le mécénat, parce que les gens donnent relativement spontanément, surtout quand il s'agit de l'Église, mais le fait de pouvoir défiscaliser le don, c'est pas forcément l'élément déclencheur, mais ça permet d'augmenter le volume du don.
Oui. Et puis, ouais. On sait aussi où va directement une partie de ces impôts, puisque si on fait un don, j'imagine, qu'il y a cette défiscalisation, on sait que c'est allé, par exemple, dans tel projet.
Alors, après, évidemment, il y a des plafonds. Hein,
oui, mais j'imagine.
Pour un particulier qui fait un don de 100 euros au bénéfice d'un projet, in fine, c'est l'État qui va payer 66 euros, 66% du
don. Bien sûr, oui.
C'est 60% pour une entreprise, et puis après, alors pour les particuliers qui payent l'impôt sur la fortune immobilière, eux, ça peut, ça, c'est 75%. Voilà. Et nous, nous collectons ces dons qu'ensuite nous reversons au maître d'ouvrage, c'est-à-dire généralement la commune ou la collectivité, quelle qu'elle soit, propriétaire du bien, pour la soulager dans l'effort financier.
Donc vous allez vous aussi démarcher, hein, j'imagine. Alors, quand il y a spontanément des privés font des dons ou des legs, je ne sais pas, ça, ok, ça vient directement à vous. Mais est-ce qu'il vous arrive d'aller solliciter des entreprises, des publics ou privés, hein, d'ailleurs, pour
En fait, projet. Ça marche à double sens. Quand on monte une collecte, et c'est la base de notre travail. Généralement, un projet public, c'est tout. Alors. Pas à 100%, mais dans 90% des cas, voire 95%, il y a une collecte. Ça fonctionne à deux niveaux. D'abord, le maître d'ouvrage, le propriétaire, oui. La commune, le département, chez nous, il n'y a plus, la collectivité de Corse aujourd'hui, s'implique dans la collecte. Il faut qu'il mobilise lui-même d'abord ses réseaux. Nous, de notre côté, nous avons des grands mécènes, des grands donateurs identifiés. Hein, c'est des gens qui... un certain confort de vie et qui chaque année font le choix.
Oui, ils souhaitent participer, bien sûr.
Voilà, à cette cause-là. Nous avons un club de mécènes, c'est-à-dire ça, ce sont des chefs d'entreprise qui chaque année payent une cotisation à la Fondation du patrimoine au niveau insulaire, qui donc créent un pot commun. Et chaque année, ils décident d'affecter tout ou partie de l'argent qu'ils ont cotisé à un ou plusieurs projets. Nous avons également des cercles, des clubs de mécènes ou des grands mécènes nationaux que nous allons également solliciter en fonction de la nature du projet, des spécificités. Alors, nous avons des grands mécènes, de grands groupes qui vont être intéressés par tel type ou tel type de projet. À ce moment-là, on appelle les collègues au siège, on dit j'ai tel projet qui pourrait intéresser tel mécène, et on fait passer une fiche. Voir si on arrive à récolter quelques sous.
Dans l'ensemble, c'est assez facile de mobiliser les donateurs, les mécènes, ou c'est un travail qui vous prend pas mal de temps pour continuer tout simplement à faire de la propagande, c'est pas le terme, mais de...
Non, de la communication.
De la communication, voilà, exactement.
Alors, c'est de plus en plus facile. D'abord...
Plus vous êtes connu, en fait, peut-être que...
Plus on est connu... plus c'est simple.
Plus sollicité aussi, j'imagine.
Aussi. Et tant mieux, parce qu'un outil n'a d'utilité que si on s'en sert. Hein, donc, il faut nous solliciter. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication qui étaient balbutiants il y a encore 20 ans, mais aujourd'hui sont totalement démocratisés. Donc, les réseaux sociaux, etc. Donc, facilitent également la tâche. Et puis, la Fondation du patrimoine, c'est aussi un organisme qui se modernise depuis 2018 à vitesse grand V. Et tant mieux. Alors c'était un organisme puisque moi je le connais depuis un moment, qui jusque-là faisait très honorablement son travail, mais qui d'un coup s'est retrouvé propulsé dans le 21e siècle. Et ça nous facilite également grandement la tâche.
Alors, propulsé par les réseaux sociaux ou par le fait qu'il y a eu à un moment donné des gens connus, je reviens sur Berne, sur le loto, etc.
Non mais vous avez raison, moi, à mon petit niveau, la délégation Corse est la plus petite délégation de France métropolitaine. Hein. Mmh. Entendons bien, nous sommes 360 000, quand les autres, les plus petits, sont quelques millions. Donc, cette nouvelle mission qui a été donnée à la Fondation du patrimoine d'accompagner la fameuse mission Berne ou l'auto du patrimoine ou mission patrimoine, c'est en fait une seule et même chose. Alors, c'est porté au niveau médiatique par Stéphane Bern. Sur le terrain, c'est déployé par la Fondation du patrimoine, soutenu par la Française des Jeux et le ministère de la Culture. Alors évidemment, du jour où on a affiché le visage de Stéphane Bern avec notre action, ça a changé.
Vous avez senti un changement, voilà.
Oui, ne fût-ce que les sollicitations. Je suis là aujourd'hui, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de temps.
Peut-être aussi, oui, effectivement.
Pour être invité à l'émission. Ça, en termes de communication, ça a forcément révolutionné l'image qu'ont les gens de nous. Notre métier, c'est le même. C'est exactement le même, mais il y a eu un formidable coup de projecteur qui nous a bien aidés.
Est-ce qu'il vous arrive de refuser des projets et sur quels critères?
Alors, un projet est refusé quand il n'est pas mûr. C'est-à-dire que le porteur de projet qui vient nous voir en nous disant si j'ai les sous, je fais, et si je ne les ai pas,
je ne fais pas,
c'est pas le bon profil.
Ça part mal, oui.
Celui sur lequel on va, beaucoup s'investir, c'est celui, alors je vais grossir le trait, bien évidemment, mais qui est déterminé à faire. Et nous, on est là pour lui faciliter la vie. On n'est pas des faiseurs de miracles. On ne peut pas faire à la place du propriétaire, quel qu'il soit, privé ou public.
Non, vous, c'est un accompagnement. Hein.
C'est un accompagnement, c'est une béquille, c'est un soutien. On va se démener, on va essayer de remuer ciel et terre, mais il faut d'abord qu'ils s'investissent. Il arrive quelquefois qu'on ait des porteurs de projets qui nous disent « Ah mais moi, je fais, si j'ai l'auto, je fais, si j'ai pas l'auto, je fais pas. » Eh ben, tu feras pas.
Oui, ça sera. Voilà. Mais vous êtes peut-être aussi sur... Il y a une demande supplémentaire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'édifices en Corse, publics ou privés, qui sont dans un état dégradé, hein, on va dire. Donc c'est peut-être ça qui explique aussi que finalement, vous êtes plus sollicité par le public. Dès qu'il y a un projet de réfection d'un toit, enfin je sais pas, d'une église, d'un couvent, on en parlera un petit peu plus tard, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi en tant qu'Oretzinko. Donc j'imagine que même les pouvoirs publics vous sollicitent beaucoup, vous travaillez de concert avec eux, j'imagine, main dans la main.
Oui, alors on travaille main dans la main. Alors que ce soit avec la collectivité de Corse, le service patrimoine, mais également avec toutes les petites mairies avec lesquelles on travaille. L'essentiel de nos projets, en fait, ce sont des toutes petites communes qui souvent ont un patrimoine gigantesque
au
regard de la taille de la commune.
C'est vrai.
On se retrouve parfois avec 50 habitants, mais deux églises, 6 chapelles, 13 ponts.
Exactement.
Comme événement.
C'est vrai.
Voilà.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir cet accompagnement. Est-ce que les gens, quand ils viennent vous voir, ils sont pleins d'espoir? Et est-ce que vous n'êtes pas aussi, quelque part, leur dernier espoir? Parce que certains, peut-être, ont fait des démarches, même associatives, en faisant des collectes, et puis bon, ça a marché plus ou moins. Est-ce que vous sentez que vous êtes un petit peu la dernière possibilité pour certains?
Non, je serais pas aussi pessimiste.
Non, non. D'accord. Ouais.
Non, alors évidemment, ça existe. Hein. Encore hier, j'avais une dame d'une association qui m'appelait. Voilà, parce qu'on a fait l'auto, on a fait le barbecue, on a fait ceci, on a fait cela. Oui, mais ça suffit pas.
Ça suffit pas, bien sûr.
Si avant ça, je dirais, il y a pas, comme je disais tout à l'heure, précédemment, hein, la volonté réelle de mener le projet. On peut faire tous les lotos qu'on veut.
Alors, quel conseil vous donneriez à un groupe ou même à un individu pour se lancer dans une telle aventure? Parce qu'il faut de l'énergie. Hein.
Alors, restaurer le patrimoine, c'est sans fin.
Oui.
C'est absolument sans fin.
Ça va encourager pas mal, ça.
De l'énergie, oui, il en faut. Et la première étape, c'est vraiment de convaincre une équipe municipale. Où qu'on soit, dans n'importe quel collectif, enfin, municipal ou
administratif,
exécutif,
voilà. Effectivement. Oui.
Voilà, c'est d'abord la convaincre, peut-être aussi faire des choix, prioriser. On peut pas tout sauver d'un coup, c'est pas possible. Donc, faut faire des choix. Et même dans les choix qui sont faits, parfois, il va falloir accepter peut-être d'y aller lentement, de faire d'abord une tranche. Cette année, on fera la toiture. Ils vont solliciter la collectivité de Corse pour avoir les subventions. Et nous, on va venir en complément. Nous, notre job, c'est de venir limiter la part restant à charge du maître d'ouvrage.
D'accord. Et techniquement, vous aidez aussi dans l'élaboration des dossiers ou pas du tout? Est-ce que vous aidez pour faire une demande de subvention à la CDC? Ça, c'est pas votre job. Vous, ça vient après.
D'un point de vue tout à fait formel, ce n'est pas notre job.
D'accord. Alors, mais il vous arrive peut-être de jeter un coup d'œil.
Pas jeter un coup d'œil, mais d'en discuter au moins avec le maire ou la secrétaire de mairie ou l'adjoint qui est en charge. Oui, ça arrive. Voilà. On va peut-être donner quelques conseils. C'est pas tout de suite pour 4 millions d'euros de travaux. On va peut-être commencer par la toiture et puis ensuite on verra, quoi.
À ce jour encore, vous avez des chiffres sur le nombre de projets qui ont été menés, on va dire à terme, de ce qui était prévu au départ, ambitionné au départ? Est-ce qu'on a quelques chiffres qui pourraient éclairer?
Alors, très honnêtement, non. Je n'ai pas ces statistiques-là en tête. C'est un mot compliqué à dire.
Mais par an, vous traitez par exemple en moyenne combien de projets?
Par an, on est entre 15 et 20 nouveaux projets.
Sur l'ensemble du territoire.
Sur l'ensemble du territoire. D'accord. Insulaire. D'abandon, je réfléchis vite fait, il n'y en a pas, ou quasiment pas.
D'accord.
Voilà, j'avais peut-être un ou deux sur en 16 ans. Les projets vont au terme. Ce qui arrive parfois, c'est un peu plus fréquent, c'est que je sois contacté pour un projet, on va dire, maintenant. Mais entre le contact, je dirais, le lancement de l'opération a peut-être passé 2, 3, 4 ans. Voilà. Mais généralement, avec les projets publics, non, ça va au bout.
Le plus emblématique, est-ce qu'il y en aurait un qui est parmi tous ceux qui...
Enfin, chez plein de monde, si je réponds à cette question.
Non, mais emblématique, alors, pas au niveau de la notoriété, ou de la complexité, ou de la beauté, ou du lieu, mais vraiment où ça a fonctionné et ça a vraiment été exemple.
Il y a des projets où tout fonctionne. Il y a eu le premier de nos gros projets, qui a été le couvent de Pine.
Ah, dans le Cap, oui.
Dans le Cap, voilà. Où là, il y a plusieurs outils qui ont été déployés avec succès, et aujourd'hui, bon, le couvent, il est restauré. Opération exemplaire, dont on a moins parlé, enfin moins emblématique, mais qui a été aussi un franc succès et récent, c'est par exemple l'église de Mâtre.
Ah oui, j'ai vu sur les réseaux, voilà. Effectivement.
L'église de Mâtre, c'est un tout petit village, hein, qui n'est pas non plus le plus simple d'accès. Mais alors, en termes de mécénat, il y a des dons qui ont afflué... les quatre coins de France. Alors, et ça, on le doit aussi...
Comment on explique ?
À la mobilisation des gens sur place. Le maire et les gens qui l'entourent. Associations, etc.
Il faut,
mobiliser absolument, mais tous les réseaux qu'ils avaient à disposition.
Donc c'est là qu'on s'aperçoit vraiment du besoin d'implication que doivent amener les acteurs, on va dire, en général.
Et de toi, la Fondation t'aidera.
C'est une belle cour. Allez, on se retrouve pour la troisième et dernière partie dans quelques instants.
Uetiu biobu e cascadu Uzo vushtu vieru e sfrageladu Iawa Azo gimaltiera di agentera Uanta cabintu azo guerra Iawa Iawa forse ci ulerà cent'anni Cento sciauru, cento malani Per smantigasse sta gondana Iawa E lughi paria Un magio maio Alzadu Sagradu Mostrava via verso un altro celesto in festa e lo subranava vuresta di azodesta da voi tante tante annate tale un campanile giovanile mai stonco di ingrandare fronde cor in legno odiene a compiuto regno Iawa anche un gigante bocca sca sol uso dall'ante un basterà per campa tocca a noi gorsi umani stando vicino pur lontani di rialza un mondo sano e awa un erburo morto una vita spinta dolore nigrore quella trista sorte ci lascia rimpianto Orsu, ugorsu, e l'usubranava vuresta di azodesta da voi tante, tante annate. Tale un campanile giovanile, mai stonco di ingranda. Ue ciu biobu e cascadu. Uso vushtu vieru e sfrageladu Iawa Awa
Troisième et dernière partie avec votre invité Thierry Rovert pour évoquer donc les missions de cette délégation corse concernant la Fondation du Patrimoine. Alors on était un petit peu généraliste. Hein. Alors j'aimerais, c'est pas pour parler que d'Oritz, mais récemment justement la CDC a fait l'acquisition du couvent d'Oritz, au lieu symbolique et historique. Et donc à travers cet exemple-là, on peut voir comment la Fondation du Patrimoine a été appelée, est intervenue en amont. Je ne sais pas, expliquez-nous un petit peu.
Pas encore. Hein. Alors évidemment, il y a un article qui est sorti il y a quelques jours et qui parlait notamment de la Fondation du Patrimoine. Hein. Donc effectivement, la mairie de Pédigroge a acquis
un privé. Hein.
Tout à fait. Le couvent qu'elle rétrocède à la collectivité de Corse, qui ensuite va mener des travaux de confortement.
Oui, ce sera. Ils vont pas refaire le couvent, bien évidemment. Ça, c'est.
Ce serait.
Oui, non, mais. Ça n'aura aucun sens. Enfin, pas aucun sens, mais.
D'abord, ce serait. Alors, oui, je ne perçois pas vraiment le sens, en fait. Le couvent, il a une histoire. Alors, il y a l'histoire, évidemment, liée à la Corse du XVIIIe siècle, etc. Pas, hein, mais son effondrement fait aussi partie.
De l'histoire.
Fait aussi partie de l'histoire. Voilà. Il n'est pas tombé faute d'entretien, même si ça s'est aggravé depuis. Mais il a explosé, parce que...
C'était un dépôt de
munitions, Deuxième Guerre mondiale, etc. Voilà. Donc, il n'y aurait pas vraiment de sens à le reconstruire. Et puis, comment est-ce qu'on le reconstruit?
Non, et puis ce serait...
Est-ce qu'on va refaire toutes les moulures de chaque... Enfin, voilà, c'est impensable.
L'idée, c'est d'éviter qu'il ne tombe.
Voilà. L'idée, c'est d'éviter qu'il ne tombe. Et surtout, de le valoriser, de le faire connaître, hein, et d'amener du public sur le site. Alors, à ce stade, les études n'ont pas encore été faites, donc chiffrées. Donc, nous n'avons pas encore été sollicités. Mais si demain, la collectivité de Corse, et je l'espère, nous sollicite, typiquement, sur ce type de projet, on va essayer de mettre en place tout l'éventail de ce que nous savons faire. La fameuse boîte à outils. Alors, ça va commencer de manière très classique par une collecte, avec un appel au mécénat très large. Et le mécène, c'est autant celui qui met 1 €,
bien sûr,
parce qu'il n'a pas forcément les moyens de faire plus, mais qu'il a envie de faire quelque chose, comme celui qui chaque année met 10, 20, 30, 40 ou 50 000 euros dans le patrimoine parce qu'il en a l'envie et les moyens.
Voilà. Comment ça se monte une opération de mécénat? C'est toujours la même chose? C'est en fonction du projet? C'est en fonction des lieux? Quelle est la part de communication? Quelle est la part du réseau aussi? Parce que vous avez un réseau.
Alors, le réseau, il est primordial. Hein. En fonction aussi de la nature du projet, on va activer telle ou telle manette. Comme je disais tout à l'heure également, il y a le réseau essentiel du porteur de projet lui-même. Et puis on va essayer d'agglomérer tout ça pour faire un tout. Alors après, d'un point de vue purement formel, ça, c'est toujours une convention que nous signons avec le maître d'ouvrage, qui est le propriétaire. On collecte les dons à son profit, nous émettons les reçus fiscaux. Ça, c'est pour la partie collecte. Et à la fin des travaux, à la fin de chaque tranche de travaux, nous restituons l'argent collecté pour soulager ses finances.
Mais vous venez, pardon, excusez-moi de vous interrompre, en complément de ce que fera, par exemple, la CDC.
Complètement.
Dans cet exemple précis. Hein, voilà.
Complètement. On vient toujours en complément.
La CDC,
alors,
voilà.
Attention, on peut aussi mener des projets tout seul.
Bien sûr.
Mais est-ce que ça a un sens quand il y a pour 1 million de travaux,
voilà,
de compter uniquement sur le mécénat? Non. Il est évident que le premier acteur, je dirais, sur l'île aujourd'hui pour longtemps, premier acteur financier, c'est la collectivité de Corse. Il est impossible aujourd'hui qu'une commune arrive à restaurer son patrimoine sans l'intervention de la collectivité de Corse. Pardon. Nous, on est là encore une fois en support. On vient pour encore essayer de faciliter les choses. Voilà. Donc, pour revenir au couvent d'Oritz, typiquement, si on est sollicité, on montera une campagne de collecte, on ira chercher du mécénat absolument partout, au niveau local et national. Mais c'est typiquement également le type de projet qu'il va falloir faire candidater au loto du patrimoine, la fameuse mission Berne.
D'accord. Oui.
Il est tellement, je dirais, emblématique de notre histoire, et à plus d'un titre, qu'il a toute sa place, il a toute sa légitimité, et en plus, il est réellement en péril, parce qu'il n'est pas loin de tomber. Voilà.
Et qui décide de que tel projet sera soumis à la Fondation Berne, enfin Fondation Berne, je ne sais pas si c'est l'intitulé exact.
Oui, alors ça a plein de noms.
Oui, voilà, on comprend, c'est l'essentiel. Et qui décide de que tel projet va concourir? Et est-ce qu'après il y a une espèce de comité qui se réunit en disant, oui, voilà, on retient alors, tel projet?
Il y a déjà chaque projet doit candidater. Enfin, chaque projet n'est porté que parce qu'il a candidaté.
D'accord.
On ne va pas décider, nous, tout seuls, que tel ou tel projet doit aller à la mission patrimoine, ou l'auto du patrimoine.
Il
faut vraiment que le porteur de projet, c'est essentiel, j'insiste, le porteur de projet, c'est la clé de voûte, candidate au loto du patrimoine. Pour ça, il y a une plateforme, un site qui est missionberne.fr, il dépose son projet. Le projet, ensuite, c'est moi qui l'instruis, qui en discute également avec mes bénévoles, et en fonction de l'état d'avancement, de l'état de péril également, eh ben, on choisit de le pousser en avant, je dirais, dans la tuyauterie, hein, du loto du patrimoine, ou dire non, ben, ce projet il n'est pas mûr, il faut encore attendre parce que c'est mal bricolé, ou c'est pas assez avancé, ou il n'y a pas de projet non plus forcément de valorisation derrière, parce que c'est très important. Restaurer les choses, c'est très bien.
Oui, mais ensuite, les faire vivre, enfin du moins
les
valoriser.
Les faire vivre derrière, c'est mieux, parce que sinon, dans 15 ans, on recommence. Hein,
exactement.
S'il n'y a pas de vie, ça va repartir en morceaux. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qui font que on va appuyer le projet pour le faire candidater au loto du patrimoine. Alors il y en a plusieurs chaque année, hein, que nous portons candidat, et donc ensuite ça monte. À chaque fois, ça passe des strates différentes et qui nous échappent après à nous, hein, localement. Et puis après, c'est le candidat qui aurait été jugé le meilleur sur la région qui remportera qui sera désigné projet emblématique, puisque chaque année l'auto du patrimoine c'est 3 projets. Un emblématique qui représente la région, et plus tard dans l'année, un projet pour chaque département.
Ce qu'il faut retenir de ce que vous nous avez expliqué, c'est que sans réelle implication du porteur de projet, les chances en tout cas sont réduites, on va dire, s'il n'y a pas une réelle implication.
Et, complètement. Voilà. Alors, et parfois, je vois sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle du Couvent Doré, c'était peut-être il y a un an, un peu moins de ça, j'étais sur place, j'ai pris une photo et je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Mais parce que je trouvais ça joli, je l'ai mis sur ma page Facebook, illustration, le couvent doré. Et le nombre de commentaires de gens disant « Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu l'auto du patrimoine ?»
Oui.
Mais on ne peut pas décider, nous, que ce bien qui ne nous appartient pas soit restauré.
On a bien compris qu'il faut que vous soyez sollicité.
Il faut vraiment qu'il y ait une démarche proactive du propriétaire. À partir de ce moment-là, on peut mettre en branle tout un tas de choses.
Donc, dans ce cas d'espèce, c'est la CDC hein, qui maintenant est propriétaire du... Donc, c'est elle qui doit être moteur, on va dire, de ce projet-là.
Et c'est valable pour la plus petite commune.
C'est ce que j'allais dire également, et valable tout à fait pour les autres communes. Alors, ça, c'est hyper intéressant. J'aurais aimé parler de plein d'autres projets. La fondation du patrimoine, la délégation Corse, vous disiez que c'était la plus petite hein, de l'ensemble, mais j'imagine que c'est pas la moins active. Quels sont vos rapports avec justement les autres délégations? Est-ce que vous échangez sur des expériences? Est-ce qu'il peut y avoir des transferts à un moment donné, ou de compétences ou d'argent hein, je ne sais pas si c'est possible.
Alors, d'argent,
ça me semble difficile.
Non, même si évidemment, nous bénéficions de une partie de notre budget est calculée au niveau national. Alors, une partie, c'est des dons que nous recevons, etc. Hein, des gens qui nous aident. Et puis, il y a une partie qui est une enveloppe nationale qui est distribuée ensuite un peu partout, dans toutes les régions. Voilà. Donc, nous sommes aidés. Nous sommes aidés par Paris. Avec les outils d'aujourd'hui, avec mes collègues du Continent Tour, mais on est en lien, mais
permanent.
Ouais. Tout à l'heure encore, on était sur des réunions Teams, où on essaie de développer des outils, où on s'aide, où on échange également les expériences.
Il y a des pistes que vous explorez pour trouver d'autres voies et moyens, autres que ceux qui sont déjà en place.
Ouais.
Comment on cherche de nouvelles façons de trouver des fonds, etc.
C'est du partage d'expérience. Il y en a un qui tente quelque chose quelque part, et puis ça marche. Et voilà, puis on fait partager les copains. On essaye de partager ce que nous appelons, nous, en interne, les bonnes pratiques.
Bien sûr.
Voilà, et puis on s'échange comme ça les tuyaux pour
et quand
densifier un peu tout ça.
Quand on est face à l'ampleur des choses qu'il y aurait à restaurer, on va parler que de la Corse, parce que c'est ce que je connais personnellement un petit peu plus que l'ensemble du continent. On ne pourra pas tout restaurer. On ne peut pas tout restaurer. On ne peut pas tout sauver. Comment on le vit, ça, justement, en tant que, à la fois passionné et salarié de cette fondation? Sachant qu'il faut faire des choix. Choisir, c'est éliminer aussi. Hein.
Oui.
Enfin, choisir. Vous êtes sollicité, donc.
Alors. Moi, je dors très bien avec ça.
J'imagine,
parce que le pire serait de ne pas choisir. Et donc, de ne rien faire.
C'est comme ça qu'il faut le voir, les choses. Ouais.
Voilà. Donc, on avance pas par pas, pierre après pierre. Et on essaye de faire le maximum. Moi, je fais un super métier. Hein, je donne le sourire aux gens.
Oui,
vraiment, voilà. Quand on va sur site à la fin d'une opération.
Bah, oui, c'est ce que j'allais dire en conclusion. C'est exaltant. C'est enrichissant. C'est une expérience magnifique. Justement, quand un projet est allé au bout, que vous l'avez suivi de A à Z, voilà, quel est le sentiment qui vous anime?
De la joie.
J'imagine.
Ouais, non, c'est de la joie, c'est de la joie, c'est
une petite fierté peut-être aussi.
Fierté aussi.
Si vous passez avec votre fils ou votre fille, je ne sais pas, fils, pardon.
Bien sûr.
On a participé à ça.
Et puis c'est énormément aussi d'échanges humains, parce qu'une église, c'est pas qu'une église. C'est tous les gens qui sont autour, qui se sont mobilisés avec vous, qui ont travaillé avec vous pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, parfois plus. Donc voilà, tout ça, c'est aussi une épaisseur humaine. Qui fait que quand on arrive au bout d'un projet, c'est du bonheur.
Eh bien, on arrive au bout de l'émission.
C'est bien dommage.
C'est un bonheur aussi. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de parler à d'autres occasions, bien sûr, de la Fondation et de tout ce que vous y faites. Merci infiniment d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Bonne chance dans vos projets, dans l'épanouissement de vos missions. On suivra personnellement l'histoire du Ubuntu Ritz. Merci Thierry Revert d'avoir été notre invité. Comme je dis à chaque fois, à chaque fin d'émission, on se retrouve la prochaine fois. On ne sait pas encore avec qui et du sujet qui sera abordé, mais en tout cas, merci pour votre fidélité. À très vite.
Fammi ra, fammi dio i me vulta, in i tempi landani. Quando era mi sempre qui, fammi tornare in paese e lasciami pensare che un tempo beato si rammenta un balzava. Bada qui, abiti in quattro passi, un tempo che scappa e chi passa, lui avanti e poi lui di lato. A to strinta mi va ci sunia, lui avanti ricordi è passato, o marroso mi va ci viaggia, fammi viaggia, ritrova la me più vedetta, dammi di me vintani, su lui fermati, falli suona, si paroli d'amore e canta. Rigugia la storia, fammi torna a spirare. Dimmi qui, l'avvenire in quattro passi, un tempo chi franca e chi passa, lui avanti e poi lui di lato, a te strinta mi va ci sunia, lui avanti si sono ritrovati, e un capo mi torna a girare. Fammi ra, fammi dio i me vulta, i tempi landani, di quando era mi sempre qui. Fammi torna, in paese lasciami pensa, di un tempo beato, tu mi facci badare. Quattro passi, un tempo che scappa e chi passa, voi avanti e poi lui di lato, a tua strinta mi baci sunia, lui avanti si sono ritrovati, e un alzo mi baci via.